Inter, le 18-20.
Nous sommes 20 millions de Français, soit près d'un tiers de la population à en souffrir. Diabète, hypertension, asthme, obésité, insuffisance rénale, polyarthrite, cirrhose, maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, cancer ou sida. La liste est longue, non exhaustive, mais toutes peuvent être considérées comme des maladies chroniques. Maladies plus ou moins graves, plus ou moins invalidantes, maladies qu'on peut soigner mais qu'on ne sait pas guérir. Pour l'instant, en tout cas, véritable défi pour celle ou celui qui doit vivre avec, et défi aussi, bien sûr, pour la médecine et pour le système de santé. Alors où en est-on aujourd'hui et que peut-on espérer pour demain? On pose ces questions ce soir et on attend toutes les vôtres, vos commentaires au 01 45 24 7000, sur internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et c'est Lila qui ouvre ce téléphone sonne. Lila, vous nous appelez de Nantes. Soyez la bienvenue, nous vous écoutons.
Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous appelle de Nantes. Moi, j'ai 23 ans et depuis ma naissance, donc, je supporte une insuffisance respiratoire. Donc moi, j'ai appris à vivre avec, mais c'est un peu compliqué pour mes proches. C'est un peu compliqué dans le quotidien aussi de supporter les médicaments tous les jours qui nous rappellent qu'on est malade. Et pour ma part, par exemple, ça m'a beaucoup freinée dans mes études. Et à l'heure actuelle, dans le travail, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est face à des gens qui pensent qu'on va bien parce que ça ne se voit pas. Donc c'est plutôt une chance. Mais à côté, nous, on peut souffrir, on peut avoir des coups de moins bien. Il suffit d'un stress, d'une poussière, d'une allergie. Et en fait, tout peut se déclencher et il faut assumer d'être en souffrance, en fait, et d'être malade. Ça, c'est toujours un peu délicat. Et puis, bien sûr, personnellement, je sais que je garde à l'esprit combien je coûte à la sécurité sociale et je sais que j'ai beaucoup de chance d'être en France, mais c'est aussi un poids sur la conscience.
Quelle est la cause ou les causes de ces insuffisances respiratoires, Lila ?
Alors, pour moi, c'est génétique, en fait. C'est dans la famille. On a des antécédents de problèmes respiratoires. C'est un asthme très sévère parce que j'ai des aérosols, en fait. Donc, je suis raccordée à une machine une, deux, trois fois par jour suivant le besoin.
Bien, merci de ce premier témoignage, Lila. Pour en parler ce soir, un trio de choc. André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Yvani Caillet, ingénieure, fondatrice de l'association de patients Rénalou, directrice de l'Institut National des Données de Santé. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir, Daniel Messager, bonsoir, du service santé de France Inter. Avant de vous laisser répondre, je signale la parution de ce livre absolument passionnant, aussi dense que passionnant, les maladies chroniques vers la troisième médecine, auquel professeur André Grimaldi et Yvani Caillet, vous participez entre autres. Alors, qui veut répondre à Lila et cet asthme quand même relativement invalidant? Elle parle de freins dans ses études, de freins au travail. Professeur Grimaldi?
Les maladies chroniques, c'est justement pas seulement un problème purement médical, c'est un problème social, c'est un problème de relation aux autres, elle a dit, c'est-à-dire que quand ça se voit pas, les autres comprennent pas que, à un moment donné, pourquoi il y a une défaillance ou pourquoi vous n'avez pas l'humeur habituelle. Quand ça se voit, vous êtes parfois considéré comme suspect un peu peur, on peut pas lui confier cette tâche. Vous pouvez être victime de discrimination, même si elle n'est pas assumée comme telle. Donc ça pose des problèmes psychologiques également. Donc cette maladie à particularité, maladie chronique, c'est qu'elles sont pas purement médicales et thérapeutiques, elles ont des composantes sociales, psychologiques, qui nécessitent ce que nous appelons une prise en charge globale. C'est la vie qui va changer.
Et ça, de fait, on va le développer largement et précisément dans l'émission. Yvani Caillet, comment vous recevez ce premier témoignage ?
C'est un exemple très clair de la maladie chronique vécue depuis le plus jeune âge, avec effectivement des impacts dans tous les aspects de la vie personnelle, étudiante, professionnelle. Et on sait aujourd'hui que il y a d'importantes difficultés pour les personnes qui vivent avec des maladies chroniques dans l'emploi, avec souvent des difficultés à garder un emploi, à trouver un travail, le fait qu'on est effectivement perçu comme des salariés à risque, même si souvent ce sont parmi les personnes les plus motivées, qui font vraiment beaucoup d'efforts pour être très performantes, le monde du travail est tel qu'il y a finalement assez peu de place pour la vulnérabilité, pour la fatigue qui peut intervenir de temps en temps, pour les absences qui peuvent parfois être plus fréquentes quand on a une maladie chronique. Donc c'est une vraie question de société qui pose aussi celle de la citoyenneté des personnes atteintes de maladies chroniques, qui est aujourd'hui un domaine à complètement conquérir dans notre pays.
Lila disait, moi j'ai de la chance, ça ne se voit pas, mais elle parle quand même de frein, Daniel Messager.
Et puis Lila, elle est jeune, on l'entend à sa voix, elle l'a dit, elle est jeune, elle a cette maladie qui est d'origine génétique depuis qu'elle est toute petite, et donc elle va vivre longtemps avec cette maladie chronique. Il y a quelques années, on parlait de maladie chronique, quelques dizaines d'années, on parlait de maladie chronique des personnes qui étaient plus âgées, qui développaient une maladie à un moment, mais qui allaient vivre peut-être 10 ou 20 ans, pas forcément plus avec. Lila, elle va vivre toute sa vie avec cette maladie chronique. C'est ça aussi qui change. Il y a des personnes qui vont développer peut-être une maladie chronique à cause de facteurs environnementaux qui touchent les gens de plus en plus tôt. Des maladies chroniques plus jeunes, il va falloir supporter, et la société va devoir supporter ce coût.
Elle-même le disait, je sais ce que je coûte et la sécu, disait-elle.
Elle-même le dit, elle en est presque culpabilisée, c'est presque touchant de l'entendre dire ça, parce qu'elle se rend compte, effectivement, elle se dit, je suis un poids pour la société. C'est pas un poids pour la société, Lila, parce qu'elle apporte d'autres choses, mais c'est ce facteur-là aussi que ces malades-là ont en tête.
André Gumendi.
Oui, il n'y a pas d'âge, évidemment. Le vieillissement de la population augmente la fréquence de maladies chroniques. Mais aujourd'hui, les diabètes insulino-dépendants, par exemple, surviennent de plus en plus tôt. On peut avoir 3 ans, 4 ans. Et à ce moment-là, la maladie chronique, c'est aussi à ce moment-là pour les parents. Hein. C'est-à-dire que, classiquement, quand on vous donne le diagnostic d'une maladie chronique, on vous dit, ça sera jamais plus comme avant et c'est pour toujours. Et puis, vous serez différent des autres. Quand on est tout petit, cette notion est pas bien claire, mais pour les parents, elle est décisive.
Ça peut être un choc, ouais.
C'est les parents qui vont gérer au début, à 3 ans, à 4 ans, la maladie d'un petit. Et pour l'enfant, ça va être décisif, parce que grandir, c'est s'autonomiser. Et pour les parents, permettre l'autonomie d'un enfant qui a une maladie comme le diabète, par exemple, mais enfin, il y en a d'autres, la mucoviscidose, c'est une difficulté. Donc, la maladie chronique, ça peut pas être traité comme on a un traitement, on va chez le médecin, il y a une prescription, on va chez le pharmacien, et puis ça... Non, c'est... Du coup, les parents, ou les patients eux-mêmes, deviennent des partenaires pour les soignants.
Et cette notion de partenaire est cruciale, justement.
Mais cette question est absolument cruciale, et notre système de santé s'est construit sur la maladie aiguë et pas sur la maladie chronique. Et là, nous avons un énorme chantier où nous sommes en retard, nous avançons.
Il faut changer de paradigme.
Oui, il faut un paradigme pour la maladie chronique. Il y a la maladie aiguë bénigne, au fond. Hein, les petites maladies, ou la cystite, la gastro-entérite, ou le colloque singulier avec le médecin, ou l'infirmière, est efficace. Il y a les maladies aiguës graves, ou les grands gestes techniques complexes, la greffe d'organes, où finalement notre système est très performant. L'infarctus du myocarde. Bon. Et puis, il y a les maladies chroniques, où là, nous sommes pas bons en prévention.
Et vous dites d'ailleurs, professeur Grimaldi, c'est la troisième médecine.
Oui, c'est ça, c'est l'idée qu'il faut concevoir ça comme une troisième médecine et pas comme une prestation en plus, on va vous apprendre à vous soigner. C'est vraiment un autre rapport au patient, le patient partenaire, comme vous l'avez dit, c'est le mot qui me paraît le plus adapté.
On repart au standard où il y a une foule d'auditeurs. Marie nous appelle d'Albi. Bonsoir Marie, nous vous écoutons.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie pour vos émissions.
Merci.
C'est vraiment de très bonne qualité. Moi, je suis diabétique insulino-dépendante depuis que j'ai 4 ans. J'ai un peu honte parce que avec le témoignage d'avant, je pense qu'elle a dû vraiment souffrir, même beaucoup plus que moi. Mais c'est une maladie qui est invalidante. On ne voit pas qu'on est malade. Donc, il y a une culpabilité qui s'installe parce que les gens... Quand on est en hypoglycémie, on est vraiment bizarre. Et les gens, voilà, on peut passer pour alcoolisé, pour tout un tas d'autres trucs, voilà. Mais ce qui est le plus difficile, c'est la discrimination à l'embauche parfois.
Vous en avez été victime, Marie ?
Dans mon travail, oui. Dans mon travail, Et puis c'est le côté, voilà, dans les études, on se freine, on peut pas rentrer dans certaines grandes écoles. C'est une honte. Moi, et pour les emprunts immobiliers, alors là, je paye 30 euros par mois comme assurance. Non, 60 euros, et mon mari paye 30 euros, alors qu'il a 13 ans de plus que moi. Et alors que je soigne mon diabète, je vais régulièrement chez ma diabétologue. J'ai une hémoglobine glycée qui est à 6, donc c'est nickel. Et je trouve que c'est inadmissible de payer plus alors que mon diabète est très bien géré.
Mais comment s'est manifestée cette discrimination dans le milieu professionnel ?
Dans le milieu professionnel, c'est pas être intégré peut-être à dans certains groupes, dans certaines activités, ou pas pouvoir accéder. Moi, par exemple, je suis infirmière et je ne veux pas rentrer infirmière pompier, par exemple.
D'accord.
Voilà. Moi, j'aurais rêvé d'être pompier ou militaire, j'ai pas pu.
Écoutez, on va passer à un autre témoignage. Merci beaucoup, Marie. Roger Marie, vous êtes avec nous ?
Oui, oui, bien sûr.
Bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir. Eh bien, je venais simplement dire que j'étais suivi pour l'hypertension depuis 7 ans, et donc soumis à une médication régulière tous les jours. Et de plus, j'ai été diagnostiqué il y a quelques mois sur un diabète de type 2. Et j'ai pris à ce moment-là la décision de perdre du poids. Je suis donc passé de 106 kilos à 85 kilos depuis le mois de juillet dernier.
Bravo.
Et j'ai vu, vous savez, des situations où on n'a pas trop de choix. Mais je m'en félicite parce que j'ai vu disparaître à la fois l'hypertension et le diabète. Et mon médecin a arrêté tout traitement depuis la semaine dernière, à la suite de cette perte de poids.
Donc là, après 7 ans un peu de calvaire ou de galère, ça va nettement mieux.
Oh, c'était pas la galère, c'était un médicament tous les jours, hein. C'est pas un comprimé tous les jours, c'est pas. Il y a pire, hein. Mais c'était simplement une dégradation progressive, par exemple l'apparition d'une stéatose du foie, qui elle était beaucoup plus embêtante. Et qui a disparu également, donc après quelques mois, d'un régime approprié, régime alimentaire approprié.
Merci Roger Marie, on va faire circuler la parole. Mais un point intéressant soulevé d'abord par Marie, je me tourne vers vous, Yvan Nicaillet. Marie, là encore, il y avait la notion de culpabilité, et elle soulevait ce point de discrimination par rapport aux assurances, par rapport aux prêts bancaires. Ça aussi, on n'en parle pas assez, mais c'est une réalité.
On n'en parle pas assez et c'est une réalité pour plein de malades chroniques qui se heurtent à des difficultés considérables lorsqu'ils veulent par exemple acheter un appartement ou créer une entreprise ou s'assurer en prévoyance parce qu'ils travaillent dans une petite entreprise et qu'ils ont besoin d'un contrat de prévoyance individuel. Ils se heurtent soit, comme c'était le cas pour Marie, à des surprimes considérables, parfois à des exclusions, donc ils payent beaucoup plus cher et ils ne sont pas couverts pour leurs problèmes de santé, ou alors carrément à des refus d'assurance. Et là, le refus d'assurance, vous ne pouvez pas acheter votre appartement, c'est tout un projet de vie qui tombe à l'eau. Et c'est vraiment une discrimination majeure qui aujourd'hui existe et dans une totale indifférence. Alors on a beaucoup entendu parler l'année dernière du droit à l'oubli pour le cancer qui était supposé permettre à des patients guéris du cancer
de s'assurer.
Simplement, c'est bien de permettre aux gens guéris de s'assurer, mais les malades chroniques, ils ne guériront jamais. Donc quel sera leur droit à s'assurer comme tout un chacun ? Enfin, je veux dire, on parle encore une fois de citoyenneté là aussi. Et c'est vraiment une situation assez scandaleuse, encore une fois, à laquelle tout le monde est parfaitement indifférent.
Deuxième témoignage, celui de Roger Marie. Ça, il nous explique simplement que par une hygiène de vie, par cette perte de poids conséquente, il a quand même réglé quelques problèmes.
Oui, là, c'est sûr, ça pose le problème de la prévention. Ce qu'il dit, c'est avec une hygiène de vie, il a pu perdre du poids. Tout le monde n'y arrive pas. Hein. Ça se saurait si on arrivait à facilement à perdre du poids, parce que souvent on perd du poids et puis quelques années après, on les reprend. Hein. Et plus généralement, nous avons, en France particulièrement, mais un problème avec la prévention. Hein. Vous savez que l'obésité se développe dans les pays développés et qu'aux USA, l'espérance de vie diminue à cause de l'obésité. Parce qu'il y a une sédentarisation de la planète, une urbanisation. L'activité physique est un point très important, mais pas facile à réaliser dans toutes les villes. Pas non plus toujours accessible à tout le monde. Donc, le mode d'alimentation a changé. Il y a l'industrie agroalimentaire, il y a beaucoup de choses. Là, vous heurtez à la fois, il y a des problèmes de comportement individuel, Mais il y a aussi un environnement.
Mais là, hein. par exemple, le diabète est en train de santé publique.
Le diabète est en train d'exploser en Chine. On a 400 millions. Et on peut pas dire seulement aux gens, faites votre régime, tout va aller bien. D'autant que c'est une maladie évolutive. Hein, le diabète qui a pu disparaître dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, réapparaîtra. Donc il y a nécessité d'une politique de prévention. Et en matière de prévention, la France est très mal placée. Autant nous sommes premier, deuxième pour la mortalité évitée grâce aux soins, autant en termes de prévention, nous sommes dans les derniers dans les pays de l'OCDE.
Daniel Messager, ah bah
j'enchaîne sur ce chapitre parce que c'est aussi ce qu'il y avait derrière le témoignage de Roger Marie. C'est une maladie environnementale au sens comportemental, c'est-à-dire que puisqu'il a perdu du poids, on se rend compte que son diabète c'était certainement un problème, voilà, de mauvaise alimentation, de manque d'exercice, etc. Et comme le disait le professeur Grimaldi, la France est très mal placée. On peut tirer un bilan d'ailleurs du quinquennat qui s'achève là, qui est quand même pas vraiment positif. Qu'est-ce qu'on a fait en matière de prévention? Pas grand-chose. On peut retenir le paquet neutre sur le tabac, mais voilà, pas grand-chose d'autre. Pas grand-chose en termes de meilleure alimentation, de meilleur accès à des produits sains. Alors, dans la campagne présidentielle actuelle, on entend effectivement, chez certains candidats, un réel souci d'avoir accès à une alimentation plus saine, mais on est encore loin de ce qu'on pourrait faire pour le quotidien. Donc, sur le tabac, pas grand-chose non plus. Je rappelle que pour l'Organisation mondiale de la santé, les causes de maladies cardiovasculaire, cancer, pour plus de 50%, elle pourrait être évitée par un autre comportement. Donc on est là, et je sais que dans votre livre, il y a un chapitre important qui est consacré à cette prévention. Il y a des maladies chroniques qui sont inévitables, mais il y en a des tas d'autres qui sont évitables si on prenait conscience de notre environnement et de notre façon de nous comporter justement face à tous ces facteurs.
André Grimaldi, vous êtes un médecin, un professeur connu, j'imagine que vous discutez avec des politiques, vous leur dites quoi ?
En France, on a construit un système de soins et pas un système de santé, historiquement. Donc la prévention, elle part en pauvre. Hein, on est à 120 000 morts par an dus à l'alcool et au tabac. Sans parler perturbateurs endocriniens et choses comme ça. Donc on a ça comme boulet. Hein, et on a sur le tabac, dans les deux derniers quinquennats, il n'y a pas eu de réelle avancée. Hein, donc on a un vrai souci. La deuxième chose, c'est qu'on est inadapté à la maladie chronique parce que la priorité est de construire un service de santé de proximité où les professionnels travaillent en équipe. Or, on a construit historiquement un médecin seul dans son cabinet, des infirmières libérales en cabinet d'infirmières libérales, pas des équipes de soins collectives. Alors ça se développe maintenant avec les maisons de santé.
C'est
en train de changer,
mais lentement, avec retard, avec beaucoup d'obstacles bureaucratiques, alors que on est en retard, si vous voulez.
C'est pour des raisons économiques.
Les choses se font, mais lentement. Le paiement à l'acte est complètement inadapté à la maladie chronique. Il faut voir des patients, certains il faut les voir une heure, mais d'autres, et certains il faut les voir souvent, d'autres il faut les voir une fois par an. Quand le malade est très informé, gère sa maladie, il n'a pas besoin de revoir son médecin seulement pour renouveler l'ordonnance et faire une prescription. Mais faut-il que le financement, la rémunération du médecin soit adaptée. La tarification de l'activité à l'hôpital n'est pas adaptée. Alors on a deux modes de financement en ville, le paiement à l'acte, la tarification de l'activité à l'hôpital, qui ne sont pas adaptées à la maladie chronique. Hein, qui relève de dotation. Voilà. Alors, dans l'histoire, quand même, il faut voir en même temps qu'on a le sentiment de progrès. Comme vous dites, quand même, les choses avancent. Jusqu'en 1953, la fonction publique est interdite aux diabétiques. Jusqu'en 63, des enfants diabétiques sont renvoyés du lycée. Il faut une circulaire du ministère de l'Éducation nationale pour dire qu'un enfant diabétique a le droit d'aller au lycée. Une de mes malades me rappelait, en classe de 6e, le proviseur convoque les parents et dit « si, c'est pas un hôpital, à la porte ». Pour être infirmière, une de mes malades avait amené les urines de sa mère pour qu'il n'y ait pas de sucre dedans. Bon, on devait tricher. Il y avait une vraie discrimination. Alors, les choses changent positivement. Le sida a joué un grand rôle. Ça a été victime, évidemment, d'une discrimination terrible, rappelez-vous. C'est-à-dire qu'il y a eu le réflexe ancestral de « on va les isoler », comme on faisait dans les sanats pour la tuberculose. Les choses ont beaucoup changé, et grâce notamment à l'action collective des patients qui étaient jeunes, informés, qui se sont battus. Et ça a bouleversé le système de soins.
Avant d'en tourner au standard, une question qui vous est directement adressée, Yvan Nicaillé, c'est Louis-Xavier sur franceinter.fr. J'ai 55 ans, je suis hypertendu depuis 10 ans, sous traitement. Est-ce que ma banque peut me refuser un prêt bancaire ?
Alors la réponse est oui. Le seul domaine en France où la discrimination sur l'état de santé n'est pas interdite, c'est le code des assurances. Donc les assureurs ont le droit, pour un emprunt immobilier par exemple, sur la base d'un questionnaire de santé, éventuellement d'examen complémentaire, de refuser une assurance.
Et Louis-Xavier précise, j'ai rempli un questionnaire où l'assurance, ce que vous dites, hein, me demande si j'ai une maladie chronique. C'est quand même ubuesque.
Alors c'est un paradoxe pour l'hypertension artérielle. Parce que vous savez qu'en France, on a ce qu'on appelle les affections de longue durée qui sont prises en charge à 100% pour la sécurité sociale. Ça correspond à 10 millions de personnes, la moitié des patients maladies chroniques. En 2011, l'hypertension artérielle sévère, c'est-à-dire des patients hypertendus qui prennent 3 médicaments, hein, où là, il ne suffit pas de perdre du poids pour guérir sa tension. Ces patients qui étaient pris à 100%, remboursés par la sécurité sociale, ont été retirés des affections de longue durée pour faire des économies.
Hein. D'accord.
Or ça, donc on pourrait dire, pour là, bah écoutez, assurance, puisque vous n'êtes plus une maladie chronique, vous êtes un facteur de risque, on n'a pas voulu vous reconnaître, c'est quand même paradoxal que l'assureur, lui, dise non, j'ai la maladie chronique. Alors, est-ce que c'est un bon calcul? Parce que beaucoup d'études montrent que dans ces maladies chroniques évolutives, le problème clé est celui de l'observance des traitements. Et l'observance dépend de beaucoup de facteurs. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce que c'est facile à prendre? Etc. Mais un des facteurs est la gratuité. Mmh. La gratuité améliore l'observance. Donc dans l'hypertension artérielle, ça sera moins d'accidents vasculaires cérébraux, moins d'insuffisance cardiaque, moins d'insuffisance rénale. Le calcul qui consiste à dire on va faire payer les malades, ce qui est en France, on croit beaucoup ça, on va faire payer les malades, c'est une bonne chose. Ça coûte plus cher à la société.
In fine, ça coûte plus cher.
Ça coûte plus cher. Il y a des études qui le montrent, publiées dans la grande revue New England, des études venues par les assureurs, financées par les assureurs américains. Hein. Donc le système de prise en charge à 100%, voilà, n'est pas, faut pas que les gens soient culpabilisés. Pour la société, ben c'est une bonne chose qu'ils se soignent.
Ça méritait d'être dit. On repart au standard. Jean-Louis nous appelle de Villeneuve-d'Ôle. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je voulais que soit entendu sur une grande antenne comme France Inter le sujet de la sclérose en plaques. Parce que quand on parle des maladies neurodégénératives, en général, on entend parler d'Alzheimer, on entend parler de Parkinson, mais la sclérose en plaques est une maladie pour laquelle il y a un assez grand silence. Bon, il s'avère que malheureusement, en ce qui me concerne, mon fils a été diagnostiqué il y a 10 ans. Lors d'une émission qui, je crois, était sur France Inter, j'avais eu une conversation avec le professeur Cohen, le généticien, qui m'avait dit que des essais cliniques étaient en cours et qu'il y avait grand espoir concernant la sclérose en plaques. Bon, je sais que votre émission ne concerne pas forcément les traitements, mais cette maladie, j'aimerais qu'on en parle parce que mon fils a fait des études assez brillantes, il était ingénieur. Et à partir du moment où cette maladie s'est déclarée, ça a été la nuit qui est tombée sur lui, quoi. Difficulté dans le monde du travail, impossible de faire les emprunts, une maladie qui est, comme vous le savez, évolutive, c'est-à-dire que de plus en plus, ça se dégrade. Il est obligé de marcher avec une canne, ce qui d'ailleurs a permis de l'identifier dans le monde des valides, puisqu'on pensait, on pouvait penser qu'il était ivre quand il se déplaçait avec ses problèmes d'équilibre. Enfin voilà. Voilà un petit peu le sujet de mon appel.
Merci Jean-Louis. Professeur André Grimaldi.
Alors, je suis le médecin à Salpêtrière, donc où il y a un grand centre de traitement de la sclérose en plaques. Donc ces maladies dites neurodégénératives, qui est effectivement un terme qui comporte des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est quand même une grande évolution. Hein. Il y a dans les maladies chroniques, alors pas toutes, hein, l'Alzheimer, on n'a pas de traitement efficace. La maladie qu'on appelle maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, il y a des grands progrès, mais il n'y a pas de progrès médicamenteux.
Et sur la
dans sclérose,
sclérose
en plaques, il y a des progrès. Il y a des essais thérapeutiques. Il y a des préventions de rechute. Il y a des résultats. Donc c'est une maladie qui est en train d'évoluer. Et ça, c'est une caractéristique de beaucoup de maladies chroniques. On ne peut plus dire seulement ce sont des maladies sans espoir de guérison ou rien ne change au fond. Hein. C'est pas vrai. Les choses bougent.
Donc il y a des maladies chroniques qui vont cesser d'être chroniques.
De manière très inégale, parce que la sclérose en plaques aussi, toutes ces maladies qu'on appelle d'un seul nom, elles sont très variables. Elles évoluent pas de la même façon. Il y a des scléroses en plaques qui évoluent par poussée puis qui deviennent progressives, bien qu'ils sont progressives d'emblée. Il y a des grandes variantes. Alors je suis pas du tout spécialiste. Il y a dans le livre dont vous avez parlé, qu'on est à 74 écrit, il y a un chapitre sur la sclérose en plaques écrit par une collègue de la Salpêtrière. Il y a sur la maladie de Parkinson. le vécu d'un patient et le point de vue du neurologue. Donc à chaque fois, il y a le patient et le médecin. Ces maladies connaissent des progrès, il y a des progrès thérapeutiques. Alors on est loin de dire la guérison, mais l'hépatite C, qui était une maladie chronique, avec des cirrhoses, avec des cancers, aujourd'hui est guérie. Le sida, qui était une maladie subaiguë mortelle et une maladie chronique, ça, c'est, je suis certain que ça, un jour, on aura la guérison.
Mais c'est aussi ça, cette troisième médecine, Daniel Messager, c'est faire en sorte, grâce au progrès technique, au progrès de la science, que de nombreuses maladies, pour l'instant chroniques, cessent de l'être.
Ça avance. Ivani pourrait dire, l'insuffisance rénale terminale, c'est une grande épopée.
Oui, mais effectivement.
Et aujourd'hui, c'est la greffe qui est l'avenir. Qui ne vous guérit pas, mais qui change votre maladie, parce que aussi on a des moyens de changer la maladie. Quand vous êtes diabétique, hypertendu, et que grâce à la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'estomac, vous perdez 40 kilos, vous n'êtes plus diabétique, vous perdez les 40 kilos, mais vous avez une maladie digestive. Donc on a changé une maladie plus grave pour une maladie moins grave. Quelqu'un qui est greffé, on ne peut pas dire il a un traitement à prendre tous les jours. Mais il a changé de maladie.
Daniel Messager, après Ivani.
Vous donnez justement l'exemple de la greffe. À un moment dans le livre, vous évoquez le problème de la greffe de rein, où effectivement, elle n'est pas aussi favorisée qu'elle pourrait l'être en France. En revanche, on favorise, entre guillemets, beaucoup les dialyses, qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont beaucoup plus contraignantes. Il y a aussi une adaptation du système de santé qui ne se fait pas, vous êtes bien placé pour en parler, qui ne se fait pas correctement, qui ne va pas dans le bon sens, bien souvent. Pourquoi un type d'adaptation plus qu'un autre, alors qu'on voit dans cette histoire de greffe de rein que c'est totalement incongru de privilégier plutôt la dialyse que la greffe.
Yves Nicaillé.
Alors en effet, aujourd'hui, pour les patients qui peuvent être greffés, la greffe de rein, c'est le meilleur traitement, c'est très supérieur à la dialyse, ça améliore la qualité de vie de manière considérable, ça améliore l'espérance de vie, et en plus, c'est beaucoup moins cher pour la sécu. Une année de dialyse, ça coûte en moyenne 80 000 euros, une année après la greffe, c'est 20 000 euros, donc c'est du simple au quadruple. Et malgré ça, en raison des questions de financement dont on a déjà parlé, d'AT2A, etc., pour les établissements, le problème, il est inversé, c'est-à-dire que la dialyse est beaucoup plus rentable que la greffe, et par un mécanisme un peu complexe que je n'ai pas abordé là, en fait, l'accès à la greffe est très limité, et limité en tout cas, en raison de cette dimension financière, alors que par ailleurs, c'est un traitement qui est très supérieur. Donc c'est un problème évidemment pour les patients, c'est un problème humain, parce qu'ils n'accèdent pas ou ils accèdent trop tardivement à ce traitement, après des années de dialyse qui est quand même... Un traitement difficile et lourd et qui peut exclure du travail, etc. Et puis c'est un problème pour la société tout entière parce que finalement, c'est chaque citoyen qui est amené à payer plus cher, trop cher, pour une prise en charge de moins bonne qualité.
On va vous laisser parler, André Grimaldi, mais on repart au standard. Dory nous appelle de Montpellier. Bonsoir Dory.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Merci beaucoup. Oui, je vous appelle de Montpellier et je suis assez contente de pouvoir donner mon témoignage, parce qu'on a parlé de sclérose en plaques. Je suis atteinte de cette maladie depuis 23 ans, voire plus, et j'ai une forme progressive, ce qui veut dire que cette maladie avance très lentement, mais sûrement. Et il y a pratiquement ou presque pas de traitement. Actuellement, je fais un petit essai, mais... C'est assez difficile. J'ai un peu d'espoir. J'espère que ça va donner un petit résultat. Donc, pour moi, effectivement, je suis tétraplégique et je n'ai pas de traitement vraiment de fond. Ce que je voulais dire, ce qui me désole un peu, c'est le manque d'infrastructures, d'environnement, de maisons, de centres pour nous, pour les malades, pour pouvoir y aller pendant une semaine, deux semaines, pour se reposer et pour soulager surtout la famille. J'ai mon mari qui s'occupe de moi la plupart du temps. J'ai quelques aides-soignantes, mais dans l'ensemble, pour tous les jours, c'est assez fatigant, il faut dire. Donc, ça serait bien qu'on nous propose quelquefois des soulagements et des centres, des endroits qui peuvent soulager surtout les aidants, la famille. Merci. Merci beaucoup.
Merci infiniment, Dori, pour ce témoignage, parce que là, effectivement, vous pointez un point absolument essentiel, c'est l'accompagnement, les aidants, la famille. Professeur Grimaldi.
Oui, c'est un problème majeur. La maladie chronique, même quand le patient est autonome, bouleverse l'environnement. Quand il n'est pas autonome, c'est les aidants participent directement aux soins. Et dans la maladie d'Alzheimer, bien souvent, l'aidant se fatigue et devient malade avant celui qui l'aide. Hein, là, il y a un vrai souci. Là encore, notre système est fait pour la maladie aiguë et pas adapté à la maladie chronique. On peut parler pareil de l'autisme, où on voit des familles françaises qui trouvent des places en Belgique et pas en France. Alors, en même temps, on se dit, oui, mais il y a quand même des priorités à faire dans le pays. C'est-à-dire que on rembourse l'homéopathie, on rembourse des cures thermales pour des gens qui vont pas si mal. Bon, on se dit, on veut réhabiliter certains centres. Bon, il y a une priorité, qui est notamment celle-là. Hein. C'est un énorme souci de santé publique, et pas seulement de l'innovation thérapeutique.
Mais là encore, on sent que ça évolue positivement.
Oui, mais
c'est lent.
Mais c'est lent. Et on a tendance en France à empiler les choses plutôt que de dire on peut changer. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de faire, je veux dire. Bon, et puis, il faut qu'on ait un sentiment de la santé, c'est un bien commun. Si c'est un bien commun, c'est un bien précieux, on ne peut pas le gaspiller. Moi, je suis choqué, on dépense 1 milliard parce que on n'utilise pas les génériques comme on pourrait les utiliser.
Par an.
On pourrait utiliser cet argent pour des choses utiles, comme ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, il y a des coûts de médicaments qui sont astronomiques. Hein. Le traitement de l'hépatite C, c'est 41 000 euros les 3 mois de traitement pour un coût de production de 250. Alors, je comprends bien qu'il y a la recherche, etc., à payer, mais bon, il y a des choses qui
ne
vont pas.
On dit qu'il y a de la marge. Quand
voilà, et on dit qu'il y a de la marge et qu'on devrait avoir une vraie discussion. Je pense que la priorité d'un ministre de la Santé devrait être les maladies chroniques. Et ça concerne évidemment les aidants, les accompagnants, les structures pour les patients qui sont en handicap.
Daniel Messager, ensuite on repart au standard.
Et ces discussions, elles pourraient intégrer davantage le patient lui-même. Le problème en France, vous l'évoquez aussi dans votre livre, c'est que le patient n'est pas assez intégré, alors que la relation qui se crée entre le médecin et le patient est absolument fondamentale, que le patient connaît mieux sa maladie que le médecin, que la notion de patient expert qui commence à se développer, c'est-à-dire un patient qui va aider d'autres patients d'une façon différente, il ne va pas faire à la place.
Comme ça existe dans d'autres pays déjà.
Voilà, il ne va pas faire à la place du médecin, il va faire en plus du médecin, mais il va intégrer une relation aux soins et un accompagnement qui sera parfois mieux perçu par l'autre malade que par le médecin. Ça, c'est des notions qu'il faut intégrer davantage en France et dans la prise en charge des maladies chroniques et qui ne sont pas encore assez présentes. Je vous donne un petit exemple assez concret pour illustrer le fait que le patient n'est pas encore assez présent. La Haute Autorité de Santé qui vient de renouveler son collège, il avait été promis il y a quelques années que lors du renouvellement du collège, le patient, une association de patients serait intégrée. Eh bien, il n'y en a pas. Voilà, le collège de la Haute Autorité de Santé vient d'être renouvelé. Les associations de patients crient
au
déni en disant on n'est toujours
c'est
pas
peut-être
représenté.
Pas le terme, mais moi, je trouve ça dingue.
On n'est toujours pas représenté au sein de la Haute Autorité de Santé. Ça illustre bien les propos.
On repart au standard. Alain, vous nous appelez de Paris et énormément d'auditeurs posent la même question. On vous écoute, Alain.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Merci et je remercie aussi les intervenants. J'ai quand même l'impression que vous aviez déjà répondu en partie, mais j'étais pas très proche de ma radio.
Mais répétez, c'est pédagogique, allez-y.
Alors, j'ai été traité de la cataracte 2 fois, et donc entre les réunions avec l'anesthésiste, etc., à chaque fois que je repartais, on me disait, on me demandait 7 euros par rapport à tout ce qui a été prélevé néanmoins. Je trouve ça tout à fait décent. Mais en même temps, me demander, est-ce que vous avez une maladie chronique? Est-ce que vous êtes à 100%? Est-ce que vous êtes ALD?
Alors, affection de longue durée.
Voilà. Et donc, il se trouve que par ailleurs, j'ai 74 ans et que je suis effectivement traité par à la fois mon médecin traitant et par mon cardiologue parce que j'ai des problèmes d'artère, je prends plus trois médicaments tous les jours, etc. Et quelles sont les nuances et qu'est-ce que et quelle est la différence? Alors, cela dit, mon médecin m'a...
Alors, si je vous comprends bien, là, je suis navré, mais le temps presse, le temps file, c'est vraiment la différence entre maladie chronique et affection longue durée. Il faut peut-être le repréciser, André Grimaldi. C'est quoi la différence, concrètement?
Les affections de longue durée, ça correspond à 30 maladies qui ont été reconnues par la Sécurité sociale pour une prise en charge à 100% des tarifs de la Sécurité sociale. Pas les dépassements d'honoraires et pas un nombre de reste à charge qui reste important. Mais par rapport au tarif de la Sécurité sociale, c'est 100%. Tandis qu'autrement, la Sécurité sociale rembourse des médicaments à 65% et il vous faut une mutuelle, une complémentaire pour avoir un remboursement. Et donc, quand il y a une prise en charge à 100%, quand vous êtes diabétique, vous êtes pris en charge à 100%. Et si vous avez une cataracte, elle fait partie des complications de votre maladie, vous êtes pris en charge à 100%. Mais si vous avez un problème de thyroïde, on va dire que c'est pas du tout votre diabète, donc, vous n'êtes pas pris en charge pour cette partie-là.
Du combattant
donc
pour le patient,
voilà, on a, comme on a construit ce système de manière très complexe, vous avez la CMU, vous avez l'aide à avoir une complémentaire, et comme ça suffit pas, vous avez l'aide à avoir une complémentaire, et comme les gens ils n'y reconnaissent plus, vous avez des personnes qui à plein temps sont là pour aider les gens à reconnaître leurs droits. Et à la fin, on dépense 14 milliards de frais de gestion avec la publicité des complémentaires. C'est-à-dire une somme colossale parce que tout est fait en double, en triple et que les gens ne s'y reconnaissent plus. Donc quelque part, on a aussi des économies de gestion. Si on avait une sécu, puis ceux qui veulent des soins qui font pas partie de la solidarité, ben, ils se le payent. Mais une sécu pour tous les soins solidaires, tout ce qu'on a entendu ici à votre antenne.
Message clair, net, vous aurez le dernier mot. André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie, CHU Pitié, La Salpêtrière, merci infiniment. Yvanie Caillé, ingénieure, fondatrice de l'association de patients Rénalou et directrice donc de l'Institut National des Données de Santé. Et merci Daniel Messager de France Inter. Je rappelle le titre de ce livre passionnant, Les maladies chroniques vers la troisième médecine, et détails absolument indispensables à donner. Je le donne, professeur Grimaldi. Tous les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à l'organisation humanitaire ATD Quart Monde. Merci beaucoup. Dans une poignée de secondes, un nouveau journal.